ma femme a signé le roman de son nom de jeune fille, Christine Le Guirec.
Ah bon? Elle est bretonne?
Je vous en prie, restez concentrés. Excusez-moi.
Bon. Si t'as des volontés à exprimer, une prière que t'aimes bien, ou un mot historique à balancer, magne-toi, ça va péter dans 15 secondes.
C'est chouette comme métaphore, non?
C'est pas une métaphore, c'est une périphrase.
Oh, fais pas chier.
Ça, c'est une métaphore.
C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin.
Bonjour à tous, c'est Julie de la librairie du Vent dans les Plumes. Alors aujourd'hui, écoutez, je vais vous présenter deux albums, deux romans jeunesse. Deux romans jeunesse pour, je dirais, à partir de 10 ans. Le premier, c'en est un que j'ai déjà conseillé pour ceux qui viennent à la librairie, que j'ai vraiment adoré. Ça s'appelle « Ma tribu aux pieds nus » de Stéphane Nicolet, c'est chez Casterman. C'est à partir de 10 ans. Et c'est un vrai pied, quoi. C'est le pied, ce roman. Il y a du rythme, de l'inventivité, c'est drôle, c'est fin, c'est tendre, voilà. C'est tout ce que j'aime. C'est l'histoire d'une famille. Ça démarre sur les chapeaux de roue. On assiste au départ précipité de la famille. Du coup, ça ne s'invente pas. Elle s'appelle la famille Papayanou. Elle doit partir précipitamment pour le sud de la France suite à l'incendie de leur logement de banlieue parisienne parce que le papa... Achille, eh ben, il a fait cramer la baraque en faisant flamber des crêpes. Voilà, donc, heureusement, Pépé, qui est muet comme une carpe, il n'ouvrira jamais la bouche pendant tout le roman, Pépé a la soluce, la tribu va quitter son logement, va quitter la place, non sans perte et fracas, direction Sauveta sur Bedoul. Là, les attendent une vaste demeure d'un aïeul, alors bye bye la cité des flamants roses et l'eau la cambrousse. Et oui, et là on s'y reconnaîtra tous un petit peu, voilà, nous qui habitons en milieu rural, on va dire, la cambrousse. Du coup, le père, la mère et les trois enfants issus de banlieue parisienne, il y a Hélios, 15 ans, Célé, bientôt 12 ans, et Apollon, 5 ans. Et le grand-père arrive à destination avec dans les poches plein de bonne volonté, mais beaucoup d'ignorance. Voilà, donc on va apprendre à la fois à faire la différence entre un chevreuil et un cerf. Et non, ce ne sont pas des feuilles qui poussent dans le potager, ce sont des blettes. Voilà, on apprend plein de trucs. Voilà, c'est très drôle. Et la découverte, en fait, tout d'un coup, de la campagne pour des gens de la ville. Et ce roman est raconté par Célé. Du coup, c'est celui qui a 12 ans. Donc c'est vraiment pumpy comme ça, c'est comme si c'était vraiment lui qui avait écrit. Voilà, mais comment est-ce qu'ils vont faire dans ce milieu hostile, sans wifi, sans supermarché à proximité, avec pour seul horizon la campagne. Voilà, et donc c'est vraiment truculent, c'est plein de petites pépites, on s'y reconnaîtra un peu tous. Et du coup, pour les jeunes qui ont parfois peut-être une réticence à la lecture, c'est écrit vraiment, c'est écrit en jeunes, quoi, enfin... C'est écrit comme si c'était un jeune de 12 ans qui écrivait un peu son journal de bord. Voilà, il y a même des petits graphismes, des petits dessins où il nous décrit la voiture avec la place de chacun. Il nous dessine les feuilles de blettes et il nous dessine les fesses d'un pour faire la différence entre le chevreuil et le cerf. Voilà. C'est vraiment super. Et je lis 2-3 extraits parce que quand même c'est pour vous donner un petit peu le rythme et le tempo de ce roman. Ado, qui s'appelle Ma tribu aux pieds nus. Je commençais à en avoir un peu marre de la linguistique, mais la médiathèque a enfin ouvert. Maman a inscrit toute la famille, car c'était gratos. Et que gratos, c'est largement dans nos moyens. Hélios, lui, il était rouge et brillant, et il sentait l'ado à plein nez. Il tapait super fort, comme s'il se vengeait contre les planches d'avoir atterri à la Dame Verte, morne contrée perdue sans wifi. J'ai mis ça sur le compte de la testostérone et du système de récompense que m'avait expliqué maman. Un truc sombre à la base d'hormones et de cortex préfrontal que les ados ont en commun avec les poissons rouges. Voilà, c'est ma tribu aux pieds nus. Vous voyez, c'est vraiment ambiance, c'est très sympathique. Et je vais rester dans la même tranche d'âge. Je dirais que c'est un roman qu'on peut lire à partir de 10 ans, 8, même 8 ans en fait. Non, 8 ans, c'est peut-être un peu jeune, Julie, calme-toi. Non, on va dire, allez, à partir de 10 ans, 10-12 ans. Et ça, c'est ma petite merveille, vraiment. Ça s'appelle Yellow Feu Follet. C'est de Siècle Vaelban et c'est à l'école des loisirs. Donc, Yellow Feu Follet, c'est vraiment, c'est une petite fille qui est qui veut être un soleil, quoi. Et du coup, elle essaie d'envoyer du soleil à tout le monde. Elle a 12 ans, elle court plus vite que le vent. Elle collectionne les noms de fleurs des champs et elle sait parler aux esprits. Alors, elle vit dans une tiny house avec ses parents, son grand frère et un vieux perroquet qui s'appelle Coco. Elle sillonne les routes avec sa famille et elle est toujours en quête de nature, d'aller parcourir les champs. Elle part du matin au soir. Et voilà, elle est vraiment dans l'émerveillement de la vie. Mais pourtant, on se rend bien compte qu'il y a une ombre qui pèse là-dessus. Aubépin, son frère, qui était autrefois évidemment lui aussi la lumière, est devenu une énigme. Il est vêtu de noir, il est hanté par ses fantômes et il s'est réfugié, selon elle, dans la contrée des tristes esprits. Mais Yellow, elle va essayer de tout faire, elle a un plan avec sa joie de vivre, avec ses sortilèges de feu follet, avec l'aide de Bel Esprit. Ça, j'espère que vous rencontrerez Bel Esprit, c'est son allié invisible. Eh bien, elle compte bien le faire sourire à nouveau, son frère. Donc dans ce texte qui est vraiment pétillant, malgré tous les thèmes qui sont abordés, comme la dépression sous empreinte de peur climatique, du deuil, de la résilience face à tout ça, mais à travers les yeux d'une fillette de 12 ans, elle essaie de toutes ses forces de rester positive, même quand elle doit affronter ses épreuves. C'est une petite pépite comme ça, et je l'ai lue et ça m'a chamboulée, quoi, vraiment. Voilà, c'est chamboulant. Chamboulant ? Ça se dit chamboulant ? Je sais pas. Donc elle parle au paysage, cette petite fleur soleil. Hein, voilà, elle veut qu'on l'appelle yellow. Elle veut qu'on l'appelle feu follet ou yellow. C'est-à-dire que elle, sa couleur, c'est le jaune. Et elle voit les gens dans des couleurs. Voilà, et elle parle aux fleurs sauvages, à Bel Esprit. À Bel Esprit des champs. Voilà, c'est une petite merveille que je vous conseille. Elle a du miel dans ses narines. Elle court sans s'arrêter. Voilà. Alors, je vous lis une petite phrase qu'elle dit. Elle dit « Je suis un voilier fendant un océan de fleurs. Et je les connais toutes. Mauve des bois, nigelle, pâquerette, centaurée rose, plantain, millepertuis et des brassées de folle avoine. C'est Bel Esprit qui m'a appris leur nom. Je crie le sien pour qu'il sache que je pense à lui. Bel Esprit ! Bel Esprit ! Bel Esprit des champs ! Le soleil réchauffe mes cheveux et je me transforme en épi de maïs. Je salive, j'ai faim de tout. C'est comme si je faisais un repas d'or et de couleurs. » Voilà. En ce début de printemps, je vous conseille de lire « Millepertuis » qui aborde tous ces thèmes durs, mais vraiment d'une très jolie façon et d'une lumineuse façon. Ça, eh ben, j'ai envie de vous dire, c'était la note « Happy, happy, happy printanière !» Attention, parce que maintenant... Je sais pas pourquoi. J'ai eu envie de parler de deux textes qui vont aborder la maternité d'une façon un peu différente. Voilà, ça va un peu déconstruire. Pourquoi j'ai envie de parler de ça ? Tout va bien hein, dans ma famille, dans mes enfants, ça va très très bien. voilà. Donc je sais pas pourquoi c'est ça qui est venu là, mais j'avais envie de vous parler déjà d'une autrice, c'est deux autrices, hein, comme de par hasard. Donc là c'est Constance Debray et j'ai envie de vous parler de Love Me Tender. Constance Debray, j'ai plutôt vous raconter après en fait qui est cette personne. Donc, quand on lit ce texte, Love Me Tender, on reçoit un espèce d'uppercut dans sa gueule. Voilà. Un gros uppercut. C'est pas parce qu'elle cherche à provoquer ça, c'est parce que dans ce texte, elle met à nu l'expérience humaine radicale, dépouillée de tout artifice. Constance Debray, elle écrit comme on tranche, comme on tranche, elle tranche dans le verbe, avec une lucidité sèche, sans pathos, sans justification, dans une prose qu'on écrit au couteau, quoi. Voilà. Donc, la narratrice, autrice, hein, parce que on sent bien que c'est quand même son parcours, c'est autobiographique, elle se trouve dans Love Me Tender à un moment charnière de sa vie, après 20 ans de vie normale. conjugale avec un homme qu'elle a aimé et avec qui elle a eu un enfant, elle a une révolution intérieure et elle choisit de vivre autrement. Alors elle quitte son mari, elle revendique pleinement son homosexualité et elle s'engage dans une existence ascétique, quoi, mais volontaire. C'est volontairement, elle se dépouille de tout. Donc elle était en plus Debray, hein, ça vient pas de nulle part, c'était évidemment la petite fille aussi de Debray. Voilà, et tout, on va avoir après, d'ailleurs, dans tous les autres livres de Constance Debré, on va suivre, en fait, dans Nom aussi, d'où vient son nom, ce nom Debré. Et effectivement, son père, à elle, en tout cas, a fini toxicomane dans une pauvreté terrible. Voilà. Donc, elle fait ce choix-là. Et évidemment, c'est personnel et ça déclenche du côté de son ex-conjoint une réaction hyper violente et donc il demande la garde exclusive de leur fils. Voilà. Disant que la nouvelle vie de la mère mettrait en danger la vie de l'enfant. Donc là, il y a un long procès pour elle en plus qui était, avant ça, elle était avocate. Donc elle connaît le vecteur de la justice. Voilà. Et on est traversé, comme ça, on traverse ce roman qui est assez court, qui c'est vraiment un gros coup de poing. Quand je dis que c'est un coup de poing en pleine tronche, c'est vraiment ça, parce qu'il y a quoi 158 pages. Eh bien, on traverse comme ça, on est témoin de cette transformation de sa vie, de cette femme qui tout d'un coup fait des choix et on est suspendu au verdict qui va décider du lien maternel. Voilà. C'est vraiment incroyable. Constance Debré, moi j'en ai lu presque tous. C'est vraiment une. Ouais, on prend une grosse claque comme ça et je vais, au lieu d'essayer de vous parler de son style, je vais vous lire un court passage. C'est comme ça, on entre dans le roman comme ça, comme un gros hypercute dans sa tronche. Je ne vois pas pourquoi l'amour entre une mère et un fils ne serait pas exactement comme les autres amours. Pourquoi on ne pourrait pas cesser de s'aimer? Pourquoi on ne pourrait pas rompre? Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'en foutre, une fois pour toutes, de l'amour prétendu, de toutes les formes d'amour, même de celui-là. Pourquoi il faudrait absolument qu'on s'aime dans les familles et ailleurs, qu'on se le raconte sans cesse les uns aux autres ou à soi-même? Et je me demande qui a inventé ça, de quand ça date? Si c'est une mode, une névrose, un toc, du délire? Quels sont les intérêts économiques, les ressorts politiques de tout ça? Je me demande ce qu'on nous cache, ce qu'on veut de nous, de cette grande, avec cette grande histoire de l'amour. Je regarde les autres et je ne vois que des mensonges et je ne vois que des fous. Quand est-ce qu'on arrête avec l'amour? Pourquoi on ne pourrait pas? Il faudrait que je sache. Je me pose la question. Je nage tous les jours, j'ai le dos et les épaules musclées, les cheveux courts, bruns, un peu gris, devant. Le détail d'un caravage tatoué sur le bras gauche et fils de pute calligraphié soigneusement sur le ventre. Je suis grande, mince, j'ai peu de seins, un anneau à l'oreille droite, je porte des jeans, des pantalons de toile, des t-shirts blancs ou noirs, des chemises d'homme l'été, un vieux blouson en cuir, pas tout tient-gorge, des Converse, des Church. Je dors dans un caleçon de garçon en Oxford gris. Je ne me maquille pas. Je me brosse les dents 3 fois par jour. Je n'utilise pas de déodorant. Je transpire peu. Mais j'aime bien de temps en temps comme parfum. Je mets habit rouge. Parfois, j'ai envie d'en changer, mais ça plaît aux filles, alors je le garde. Je sens le chlore aussi avec la piscine. Je fume des Marlboro Light le soir. Je bois peu, je ne me drogue pas. Je vis à Paris, dans un studio vert d'enfer. Je n'ai pas de meubles, à part un matelas. Voilà, ça vous donne le ton du livre. C'est fascinant. C'est Constance Debré, Love Me Tender. Et du coup, ça, c'est en poche. C'est paru il y a un moment déjà. Et là, c'est chez J'ai lu. Alors, on va continuer sur la maternité. là, je viens de finir aujourd'hui et du coup, je me suis empressée d'écrire quelque chose là-dessus parce que c'est aussi une grosse claque. C'est Amère, c'est un roman graphique de Lucrèce Andrea. Et pareil, c'est un livre dérangeant. Alors, je ne sais pas trop à qui il faudrait le conseiller ou ne pas le conseiller. C'est une sorte de journal rétrospectif sur sa maternité. Voilà, il y a un peu tout qui est abordé dedans. Le corps, les fausses couches, les douleurs de l'allaitement, l'ennui mortel avec son bébé pendant le congé maternité. Il y a tous les sujets sur la culpabilité, celle de ne pas aimer assez, celle de ne pas en faire assez, face à toutes les injonctions et les contradictions qu'on rencontre en tant que maman. Voilà, je vais vous parler du style parce que c'est très étonnant, c'est atypique. Donc à l'intérieur, il y a des dessins. Moi, j'aime beaucoup ce style, mais peut-être qu'il y a des gens qui n'aimeront pas du tout. Ça prend ici, en tout cas, tout son sens pour déconstruire la maternité. Et c'est vraiment brut de décoffrage. C'est des dessins qui sont faits au crayon, gras pastel. C'est, y a pas de fioritures, y a pas de fond pour les mettre en avant. C'est vraiment des, c'est assimilé en fait à des dessins d'école primaire avec des couleurs un peu flashy. Donc c'est plein de petites bulles sans être des bulles quoi. C'est vraiment voilà, les couleurs c'est donc très coloré, très pétillant. On dirait parfois des arcs-en-ciel quoi. C'est renforcé tout ça par la matière du crayon gras, voilà. Et ça nous renvoie toujours à ce dessin d'enfant. Donc c'est assez cohérent en tout cas pour cette BD qui a le mérite de s'attaquer à un sujet qui est encore tabou, hein, qui est la maternité difficile, les difficultés, la culpabilité des femmes, et elle le fait de manière super cash. Voilà. Ça nous parle vraiment du fossé entre la maternité idéalisée, idyllique, et la réalité des faits. Voilà. Mais elle nous emmène vraiment sur un fil. Donc on est presque désespéré au fur et à mesure. Et bon, voilà, c'est parce que comme toutes les mères, elle veut le meilleur pour son enfant à naître. Elle va passer par une démarche militante, par le respect absolu des besoins et des désirs du bébé. Donc elle se documente beaucoup, elle lit énormément, elle adopte les principes de la parentalité positive ou d'éducation bienveillante qui prônent du coup, là en tout cas dans ce qu'elle lit, elle, c'est l'allaitement sans limite d'âge. Donc sa fille, elle va prendre le sein quand même jusqu'à 3 ans. Elle va dormir contre la poitrine de sa mère devenue pourvoyeuse de lait à n'importe quel moment du jour et de la nuit alors qu'elle est épuisée. Le cododo, le portage, le maximum de temps passé avec son enfant. Et en fait, elle est épuisée, elle a énormément mal. Elle s'interdit de faire une pause aussi. Elle s'interdit même la crèche. Elle va garder sa fille. Enfin, elle s'interdit en fait aussi en essayant d'être vraiment dans tout pour son enfant. Elle ne tient absolument aucun compte de ses besoins à elle. Voilà. Et de son épanouissement à elle. Et en fait, elle se prend des plombs dans la tronche au fur et à mesure. Vraiment, on est. Voilà, et elle le fait de manière assez drôle aussi, hein. On se marre, hein, heureusement quoi. Mais je crois que j'ai rarement lu un truc aussi dérangeant en fait, mais vachement bien. Hein. Ça a l'air horrible quand je parle de ça. Mais non, en tout cas, moi je trouve que c'est déculpabilisant et ça fait vraiment du bien d'aborder ce sujet. Parce que on a l'impression comme ça que quand on a des enfants, il faut être les mieux possibles en tant que parents et qu'on ne peut pas parler de ces sujets-là. Qui ne sait pas, excusez-moi, hein, mais peut-être que qui ne s'est pas ennuyé parfois pendant le congé maternité à ne voir aucun adulte et de devoir être avec un bébé qui dort beaucoup et quand il ne dort pas, qui crie et qu'on est là pendant des jours pendant que l'autre va travailler. Voilà, donc ça m'a beaucoup parlé moi aussi. Pas tout, hein, mais voilà, en tout cas, il y a à apprendre évidemment et puis ça, je pense que ça a des résonances en tout cas et je trouve que c'est vachement bien qu'elle l'ait fait. Elle aussi, elle en avait besoin. D'ailleurs, on le comprend hein, vers la fin. On comprend qu'elle a besoin d'exorciser ces 3 années parce qu'elle a vécu 3 années en enfer alors que c'était le rêve de sa vie d'être maman. Et donc là, vraiment, elle va toucher un endroit. Je ne vous raconte pas la fin. Mais amère, en tout cas, c'est incroyable. Et donc voilà, elle commence son bouquin en disant « Bonjour, moi c'est Garance, je suis là pour vous parler de maternité. D'abord, commençons par un petit questionnaire pour sonder un peu vos attentes et tenter de les satisfaire au mieux. Cochez le contenu recherché. La recette du bonheur en famille en 5 principes fondamentaux. Qu'est-ce que vous recherchez ? Mes petits tricks perso pour être toujours au top avec mon enfant. Mes techniques non violentes pour canaliser ses humeurs. Une notice détaillée de l'enfant révélant à la fin où se trouve le bouton off. Les études neuroscientifiques nous expliquant pourquoi il est chiant. Exorciser la pulsion de mort pour ne pas devenir une mère castratrice. Comment faire pour que mon bébé obéisse tout le temps ? Et le grand traité de la manipulation perverse des enfants, le grand complot des enfants rois ou la fessée injustement calomniée. Qu'est-ce que vous cherchez ? Ah ! Mais non, c'était pour rire, j'en ai rien à foutre de vos attentes. Ici, je suis chez moi et je fais tout ce que je veux. Voilà, reprenons. Alors, mes chères lectrices, et oui, lectrices, ça pose un problème à quelqu'un. C'est pas ma faute à moi, s'il y a que des nanas pour lire un livre sur les trucs de lardons et d'enfants. Ici, le féminin l'emporte, voilà. Donc, ça vous donne le ton. On entre dans cette BD comme ça. Voilà, et ben, je vous conseille de le lire, c'est un choc. Et en même temps, c'est cathartisant. Voilà, cathartisant, on peut, j'ai le droit. Moi aussi. Voilà. Et ben, merci beaucoup de m'avoir écouté. Alors, je vais quand même vous parler un petit peu de qu'est-ce qui va se passer à la librairie en ce mois d'avril. Déjà, samedi 11 avril à 18h30, nous aurons un arpentage avec l'arpenteuse qui sont deux meufs de malades qui vont venir ici nous dépioter. Le soin est un humanisme de Cynthia Fleury. Voilà, ça va nous faire du bien. Donc, à partir de 18h30, ça dure 2 heures. C'est un prix libre. On vous conseille quand même 10 balles parce que c'est le minimum, voilà. Mais ça, voilà. Et ensuite, nous aurons une lecture pour les 4-6 ans à la librairie le mercredi 22 avril à 10h30. Et c'est Paulina, qu'on salue bien, qui est de Air d'Otan et de la radio Albigeste, du coup, qui va venir nous faire une lecture de l'abécédaire des métiers imaginaires de chez Little Urban. C'est vraiment... trop bien, on adore cet album et on est trop contente de l'avoir venir. C'est sur réservation, évidemment, parce que la librairie, on ne peut pas écarter les murs plus que ça. Et ensuite, on aura une rencontre qu'on attend énormément aussi avec Jérôme Poisse, qui est l'initiateur de 100 dessins pour Gaza. Du coup, ce sera le vendredi 24 avril à 18h30. Et Jérôme Poisse, du coup, qui a initié ça, donc 100 dessins pour Gaza, 100 dessins pour la paix. Il y a 100 dessinateurs à travers le monde entier qui ont fait parvenir leurs dessins pour dénoncer le génocide en cours en Palestine. Voilà. Et l'ensemble des bénéfices seront reversés au syndicat de la presse palestinienne pour le journalisme et également pour les familles qui ont perdu leurs proches qui essayaient d'exercer leur métier là-bas. Voilà, ça c'est pour vous dire tout ce qui va se passer. Je vous dis au revoir et je vous laisse écouter La Chica, La Loba. Hasta luego.
Soy la que manda, soy la que sabe. Anciana leyenda, alma salvaje, yo soy la que sana. Me conoces, ¿no? Me llevas en ti. Vivo entre dos mundos cuando siembro, siembro profundo. I pick up the bones, I pick up the bones.
Loba,
I pick up the bones, I pick up the bones.
Loba,
recojo los huesos, recojo los huesos.
Loba,
recojo los huesos, recojo los huesos.
Loba,
deja la maga ver, deja la magia hacer. Despierta, despierta, libera tu rabia. Recuerda la esencia, ve. Recuerda por qué.
Siglos y siglos y siglos. Suena la voz del silencio.
Ya no más. I pick up the bones, I pick up the bones.
Loba,
I pick up the bones, I pick up the bones.
Loba,
recojo los huesos, recojo los huesos.
Loba,
recojo los huesos, recojo los huesos.
Loba.
Crece la rabia, crece la rabia. Transformo la furia, mi rabia es mi fuerza, mi rabia es mi fuerza. Puedo curar, curandera me dicen, recojo tu hueso. Curandera me dicen, le canto a tu cuerpo, recojo tu hueso. Le canto a tu cuerpo, recuperas piel. Le canto a tu cuerpo, recuperas piel.
Vuelve el soplo, vuelve el soplo.
Vuelves a la vida, vuelves a la vida, vuelves a la vida.
Thank you.
recojo los huesos, loba, recojo los huesos, loba, recojo los huesos, loba, recojo los huesos, loba, loba, loba.
Thank you.